VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
18h temps universel dans 10 minutes Carrefour avec Eric Manirakiza, mais tout d'abord le journal. Élection au Niger, le gouvernement nigérien rejette les assertions de l'opposition qui dénonce des fraudes électorales de la part du parti au pouvoir et refuse de reconnaître les résultats des présidentielles annoncés depuis la veille par la CENI, la Commission électorale nationale indépendante. Le ministre de l'Intérieur a soumis, Massaoudou a déclaré à l'AFP que les élections avaient été conformes aux standards internationaux. Cela fait longtemps qu'ils disent qu'ils ne reconnaîtront pas les résultats. Ce n'est pas une surprise, a précisé M. Massaoudou, faisant référence au leader de l'opposition. Il a conclu en disant « Si nous perdons, nous partirons sans problème. Si nous gagnons, nous restons. » Fin de citation. Pour les réactions aux allégations de fraude, rejoignons notre envoyé spécial à Niamey, Nicolas Pinault, qui commence par l'opinion des observateurs internationaux présents au Niger. Il répond à Morgane Guiriec.
Écoutez, Morgane, à la fois la CEDEAO, à la fois la mission de l'Union africaine et celle de la francophonie avaient publié, avant évidemment le point de presse de l'opposition, avaient publié un communiqué commun dans lequel ils disaient que l'élection s'était tenue dans un cadre de paix et surtout était transparente. Aujourd'hui, évidemment, l'ancien Premier ministre gabonais Eyigen Dong a refait une communication sur le rapport préliminaire de l'Union africaine. Et là encore, hein, on n'a pas parlé de fraude. Pour le moment, on ne communique pas du tout sur ces allégations de l'opposition. Il va donc falloir attendre, évidemment, la proclamation des résultats provisoires qui devraient intervenir cette nuit ou demain midi pour avoir peut-être une vision plus claire de ces allégations de fraude.
Et les électeurs, que disent-ils concernant ces allégations de fraude ?
Pour le moment, en tout cas, Morgane, ils attendent, hein, évidemment. Ici, tout le monde affirme que c'est très très long, hein, que c'est anormal. Généralement, les résultats doivent être publiés beaucoup plus rapidement, comme ça avait été le cas en 2011. Donc ici, beaucoup estiment que, évidemment, plus le temps passe et plus on s'interroge, et cela renforce la suspicion, Morgane.
Nicolas Pinault, notre envoyé spécial à Niamey. En RDC, visite éclair du secrétaire général de l'ONU Ban Ki-moon aujourd'hui dans un camp de déplacés de la province du Nord Kivu dans l'est du pays. En provenance de Goma, chef-lieu de la province, après Bujumbura au Burundi voisin, Ban Ki-moon a passé plusieurs heures au camp de Mungote à Kichanga, localité de 80 000 habitants, environ 80 km au nord-ouest de Goma. Le gouvernement de la RDC menace de fermer plusieurs camps au Nord Kivu, une décision qualifiée de punition collective à l'encontre des déplacés par l'OCHA, le bureau de la coordination des affaires humanitaires de l'ONU. Selon l'OCHA, c'est la découverte d'une arme dans une hutte du camp de déplacés de Mokoto dans la province qui a motivé la décision des autorités congolaises. Le gouvernement provincial du Nord Kivu a d'ailleurs démantelé le camp de Mokoto. Au Burundi voisin, le Sénared, principale plateforme d'opposition intérieure et en exil, accuse le gouvernement burundais de fausse ouverture parce que le président Pierre Nkurunziza se dit prêt à dialoguer uniquement avec les opposants qui ne se sont pas engagés dans des actes de déstabilisation. Il dit au secrétaire général de l'ONU qu'il accepte le dialogue inclusif. Et tout de suite après, il veut choisir ses interlocuteurs en accusant certains de perturber la sécurité, a déclaré Léonard Nyangoma, président du Sénared, joint au téléphone par l'AFP. Rappelons que lors de sa visite à Bujumbura, le numéro 1 de l'ONU Ban Ki-moon a obtenu l'engagement du président Nkurunziza d'ouvrir un dialogue inclusif avec son opposition, des promesses acquises après des consultations ce mardi avec le chef de l'État burundais. Messieurs Ban et Nkurunziza ont d'ailleurs confirmé cet engagement lors d'une conférence de presse conjointe avant le départ du numéro 1 de l'ONU pour Goma en RDC, deuxième étape de la tournée africaine de Ban Ki-moon. Les grandes lignes de la visite de deux jours de Ban Ki-moon au Burundi avec notre correspondant à Bujumbura, Christophe Nkurunziza.
Ban Ki-moon, après avoir rencontré lundi soir des dirigeants de quatre formations politiques les plus représentatives, dont Agathon Rwasa, Charles Nditije, Léonce Nguendakumana et Pascal Nyabenda, s'est entretenu avec le numéro 1 burundais ce mardi matin. Des questions de l'heure ont été abordées, tel le dialogue inclusif sans faux-fuyant avec les responsables des partis politiques qui sont aujourd'hui en exil. En outre, Ban Ki-moon a indiqué qu'au moins 2000 prisonniers politiques vont être libérés et que d'autres gestes de ce genre seront pris demain pour montrer montré la bonne foi du gouvernement. Pierre Nkurunziza, quant à lui, s'est félicité de la collaboration avec les Nations Unies, où les militaires et policiers burundais collaborent étroitement avec les Nations Unies en Somalie, en République centrafricaine et dans d'autres pays. Pour le président burundais, cette collaboration sans faille va continuer pour les biens de Burundais et des Nations Unies. Des preuves ont été données à Ban Ki-moon qui montrent que le Rwanda entraîne des réfugiés burundais sur le territoire rwandais, selon toujours le président burundais. Mais pour Ban Ki-moon, il faudra toute la détermination collective de tous les Burundais et de leurs partenaires régionaux et internationaux pour remettre le Burundi sur la voie de la paix, du développement et de la réconciliation. Pour Ban Ki-moon, il n'y a pas de temps à perdre. Christophe Kurunziza, Bujumbura, VOA Afrique.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Au Tchad, la marche pacifique de l'opposition démocratique n'a pas eu lieu ce matin à N'Djamena, faute d'autorisation de la part du gouvernement. Le point avec notre correspondant sur place, André Kodmajinga.
L'espace Fest Africa, qui constitue le point de départ de cette marche pacifique, a été pris d'assaut très tôt le matin par le service de sécurité. Une trentaine de véhicules bourrés des éléments de la police et de la gendarmerie nationale, ainsi que des chiens anti-émeutes, attendaient de pied ferme les manifestants. Regroupés devant le domicile du chef de file de l'opposition, brandissant les pancartes où on peut lire « Non à l'injustice, non à la répression de la jeunesse tchadienne, non à un cinquième mandat pour Déby, non aux violations des droits humains », les militants de ces partis politiques de l'opposition attendait le mot d'ordre de leur leader pour croiser le fer avec les agents de sécurité. Saleh Kebsabo, chef de file de l'opposition, sort de la maison et lance cet appel aux militants.
Nous sommes devant un dilemme qui est grave parce que la marche est interdite et on le sait depuis hier. On ne peut donc pas se regrouper à Fest Africa pour démarrer notre marche.
Cette marche avortée risque d'entamer la crédibilité du chef de file de l'opposition car beaucoup de ses compagnons de lutte se disent déçus parce que Saleh Kebsabo a fléchi face à cette menace de peur que sa candidature ne soit invalidée à la présidentielle par le Conseil constitutionnel. André Kodumadjingar N'Djamena, La Voix de l'Amérique.
Crise en Libye voisine, le Parlement libyen de Tobrouk, reconnu par la communauté internationale, n'a pas pu, faute de quorum, tenir un vote de confiance aujourd'hui sur le gouvernement d'union nationale soutenu par l'ONU. Et le vote a été reporté à la semaine prochaine, selon des parlementaires présents à la session. D'après le député Ali Al-Kaïdi, le programme du gouvernement d'union nationale fait l'objet de divergences au Parlement. Rappelons que les parlementaires avaient déjà rejeté le 25 janvier une première mouture de ce gouvernement proposée par le Premier ministre de consensus Fayez Al-Sarraj.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
L'actualité hors d'Afrique maintenant. En Syrie, le gouvernement du président Bachar Assad a donné son accord au projet américano-russe de cesser le feu dans le conflit syrien. Une trêve qui doit entrer en vigueur le week-end prochain. Le point avec Idriss Fall.
Le gouvernement syrien a accepté la proposition de John Kerry et Sergei Lavrov. Le haut comité des négociations qui rassemble des groupes de l'opposition a déjà donné son feu vert hier en restant sceptique sur la bonne foi du régime syrien. Après un entretien hier avec Barack Obama, le président russe Vladimir Poutine avait assuré qu'il ferait tout pour que son allié syrien respecte cet accord. La trêve doit débuter samedi à 0h locale. Elle exclut le groupe État islamique et le Front al-Nosra, branche syrienne d'Al-Qaïda, qui contrôle des pans entiers de la Syrie. C'est surtout le Front al-Nosra, allié à certains groupes rebelles, qui sera un obstacle majeur. Cet accord intervient au moment où l'armée syrienne, appuyée par les bombardements russes, a repris beaucoup de terrain aux rebelles dans la province d'Alep. D'ailleurs, le président Bachar al-Assad a annoncé la tenue des législatives pour le 13 avril dans tout le pays. Le Parlement actuel a été élu en 2012 pour 4 ans.
Et pour terminer l'actualité aux États-Unis, le président américain Barack Obama a présenté aujourd'hui un plan pour fermer la prison de Guantanamo pour les djihadistes parce que cette installation est à son avis néfaste pour la sécurité nationale des États-Unis et contraire aux valeurs de l'Amérique. Quand il devient clair que quelque chose ne fonctionne pas et que cela n'est pas bon pour notre sécurité, il faut changer de voie, a déclaré Barack Obama depuis la Maison-Blanche en appelant le Congrès américain à examiner son projet avec honnêteté, même au beau milieu d'une allée électorale. L'exécutif a identifié 13 sites sur le sol américain susceptibles d'accueillir les 91 prisonniers actuellement détenus dans la base américaine à Cuba, sans en recommander aucun ni donner des chiffres concernant le coût du transfert. Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook. Bonne soirée.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.